Donc Gilles m'a demandé d'évoquer, c'est pas la question qui me passionne le plus, mais il m'a demandé d'évoquer la question de l'accueil inconditionnel. Et que effectivement cet accueil dit inconditionnel fait question à plusieurs niveaux. La construction de l'identité de travailleur social a toujours reposé, vous l'avez rappelé ce soir, hein, sur des notions aux accents de valeur tels que l'engagement, l'implication et la détermination de chaque acteur du monde associatif et du secteur public. Alors on peut se demander ce qu'il en est aujourd'hui, alors que le travail social est confronté à des données inédites, vous en avez rappelé quelques-unes, à des transformations, à la diversification des publics, à la régression, voire parfois à la destruction des conditions même de l'action sociale. Juste là, Gilles parlait des enfants que vous recevez, etc. Bon, il se trouve que je vais aussi dans la rue avec une autre association et qu'il y a plein de bébés dans la rue en 2019 en France, dans un pays où il existe une loi qui s'appelle la protection de l'enfance. Pour en revenir à l'accueil inconditionnel, on peut se demander ce que serait un processus sans condition. Eh bien, c'est un processus illimité. Et un processus illimité, on en connaît la dimension impossible. Du coup, il serait, à mon avis, peut-être plus intéressant de définir ce type d'accueil, ce que Jean-Marc, d'ailleurs, a fait un peu tout à l'heure, et se demander, par exemple, si, selon comment on va définir la notion d'accueil, du coup, l'emploi des mots « accueil inconditionnel » pourrait devenir un pur pléonasme. En effet, l'accueil qui répondrait aux valeurs du travail social n'aurait pas besoin de se spécifier d'inconditionnel pour répondre aux conditions éthiques qui le façonnent. On peut donc se demander ce qu'implique la nécessité aujourd'hui de devoir préciser qu'un accueil des personnes les plus fragiles devrait être inconditionnel. Si vous voulez, ce qui m'intrigue, c'est qu'on puisse se poser la question. Bon, ça vient dire quelque chose du contexte dans lequel vous vous battez et dans lequel on travaille. En même temps, la question n'est pas tout à fait déplacée aujourd'hui lorsque l'on sait que pour être admis dans certaines structures dites sociales, il vaut mieux, par exemple, être sobre et que pour être accueilli en psychiatrie, il est quand même beaucoup plus prudent aujourd'hui de ne pas délirer et de ne pas être agité, c'est-à-dire de ne pas être fou. Si on doit donc préciser inconditionnel, est-ce parce que cela ne va pas ou plus de soi ? Est-ce dans une articulation avec d'autres notions auxquelles le travail social ou le soin nous confronte, et en l'occurrence celle de l'exclusion ? Si accueil inconditionnel s'entend comme un principe de non-exclusion, nous savons tous que la notion de limite est en étroite articulation avec celle de l'existence même. D'ailleurs, la clinique du travail social, notamment au détour de certains passages à l'acte violents, dément ce principe d'équivalence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de penser qu'un accueil inconditionnel égale la non-exclusion. Donc là, ça se complique quand même. C'est donc une question compliquée. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse de type pour ou contre. On aurait donc intérêt à ne jamais cesser de réfléchir sur ces notions, accueil et exclusion, en les distinguant. L'accueil inconditionnel pourrait refléter le choix qui consiste à ne pas exiger de la personne accueillie qu'elle s'inscrive, par exemple, dans des normes. Le principe de non-exclusion s'articule quant à lui au fait que nous travaillons dans le champ de la lutte contre l'exclusion. Pour être au plus près des préoccupations de terrain, nous savons enfin que la question se pose toujours au détour d'un passage à l'acte. Pour résumer, nous souhaitons accueillir les sujets de façon inconditionnelle, c'est-à-dire au-delà de leur adhésion aux normes psychosociales établies, mais nous ne pouvons dénier l'existence de limites dans le réel des actes parfois posés. Alors que faire, comme dirait l'autre ? Sans doute s'interroger sur ce qui engendre la violence. Ce qui, de cette violence, relève de l'état même du sujet, en général, du coup, c'est un état passager, c'est la situation la plus simple, j'ai envie de dire, qui n'engendrera pas une véritable exclusion, mais qui peut-être proposera une pause ponctuelle qui laissera la possibilité au sujet devenu violent de retrouver suffisamment de sécurité interne pour ne pas avoir besoin de s'exprimer en posant un acte violent, c'est-à-dire qu'il va falloir accueillir ce sujet violent, si on revient à ma première définition. ce qui relève de ce que nous pouvons induire, nous. Alors, il faut distinguer ce qui relève donc de ce qui peut se passer pour un sujet à un moment précis, de ce qui relève de ce que nous pouvons induire, nous, soignants ou travailleurs sociaux, afin d'en faire une certaine analyse qui nous permettrait de mettre ce type d'erreur de transfert de côté. Et enfin, ce qui relève de ce qui nous échappe à tous, les personnes que nous accueillons et nous-mêmes, c'est-à-dire ce qui a trait à la violence sociale et politique. Il y a en effet un danger qui réside dans les tensions entre les missions d'aide et les injonctions à la normalisation, entre les idéaux et la réalité à laquelle nous confronte le discours normatif, et ces tensions peuvent nous mener à une série de positions paradoxales. Par exemple, faire cohabiter l'accueil inconditionnel et l'exclusion, qui est une chose qui ne satisfait personne. Je crois que si nous voulons continuer à travailler dans nos principes éthiques, il nous faut tendre vers une ouverture immense au nom d'un accueil inconditionnel, sans en être tout à fait dupe, mais en s'efforçant d'analyser les dimensions singulières de cet accueil pour chaque sujet. Et d'autre part, peut-être décider qu'il est interdit d'exclure. Une des institutions dans laquelle j'ai pu travailler à l'étranger recevait des adolescents errants et nous avions posé ce principe. Lorsque nous étions confrontés à des débordements de violence, c'est-à-dire tous les jours, ce sont les autres adolescents qui réclamaient l'exclusion du sujet violent. Et l'équipe rappelait alors simplement la règle, qui était une limite, c'est-à-dire la condition, qui était « il est interdit d'exclure ». Alors nous réunissions le groupe afin qu'il trouve une solution à l'intérieur de cette condition.